J'adore ce chant. C'est l'introduction. J'ai une question pour vous. Et c'est la question suivante. À quel point est-ce que Dieu est intime avec nos vies? Mais nous savons que, surtout quand les choses ne vont pas comme nous pensons qu'ils devraient se passer, dans Isaïe 66, il y a un verset étonnant. C'est pour chacun d'entre nous. Et un jour, nous y serons, nous arriverons à cette situation. Dans verset 2, pour toutes ces choses, et pour toutes ces choses, c'est ma main qui a fait. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit Seigneur. Voici que je porterai. Et toutes les. Et chaque fois que vous voyez dans le mot qui dit mais, il y a une transition. Donc on voit ici. Mais je regarde à celui qui est, je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui craint ma parole. C'est vraiment un passage merveilleux. Père, nous prions ce matin que tu nous aides à comprendre ce que nous avons entendu, que nous sommes faits merveilleusement. Et dans nos situations, tu n'es pas distant de nos situations. Mais tu es intime avec nous dans chacune de ces situations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce mot, ce mot de pauvreté, et on pense souvent à la pauvreté physique, matérielle, mais en hébreu, cela veut dire une sorte de peine ou de souffrance. Ça peut être une situation qui est en dehors de mon contrôle, qui me donne de la peine, qui me donne de la difficulté, qui m'empêche de dormir. C'est 3 heures du matin des fois, je devrais dormir, mais je suis réveillé parce que ma tête réfléchit. Nous savons que Dieu désire être intime dans ces moments-là avec nous. Il n'est pas distant de la situation. Et j'aime cette parole qui nous dit, c'est celui à qui je regarde. C'est quelque chose, c'est une attention particulière dans nos vies à ce moment-là. Il nous regarde. Parce qu'il est présent dans nos situations. Il est aussi dit que celui qui a un esprit abattu, quelqu'un qui est brisé dans la vie, brisé par un fardeau, brisé par une relation, brisé par un manque de relation avec quelqu'un d'autre, c'est une affliction, c'est un abattement. Mais Dieu est intime dans ces moments-là, il est très proche, il n'est pas loin, il n'est pas distant, mais il est tout présent avec nous, avec vous. Et je pensais à ceci, il y a un autre verset dans Ésaïe 40, 41, il est dit ceci, dans verset 17, quand les pauvres, les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, il n'y en a point. Je regarde, je cherche de l'eau, je cherche quelque chose pour mon esprit, pour mon âme, un bandage particulier, mais je ne trouve rien. Et leur langue est desséchée par la soif. Et j'adore ce passage qui dit « Moi, l'Éternel, je les exaucerai ». quand ma langue est desséchée, que je ne peux même pas parler, c'est une situation, ça m'enlève toute l'eau, c'est une forme de sécheresse dans les eaux. Mais quand David a reconnu ses péchés, Dieu a exaucé, il a entendu, il écoute. Et ici, il est dit, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ce sont des mots qui nous apportent des conseils dans nos âmes, des mots que nous communiquons à des gens et qui conseillent nos âmes, qui répondent à nos besoins au travail. Parce que chacun d'entre nous, nous allons être abattus ou brisés par une situation en dehors de nos contrôles. Et on voit que les gens, que chacun d'entre nous a toujours des situations, faisant face à des situations qui sont difficiles, que nous ne pouvons pas contrôler. Et Dieu nous dit, je te comprends, je te connais, je comprends ta situation, mais je ne suis pas touché, je ne suis pas ébranlé. On voit aussi dans cette troisième parole qui est dit, celui qui tremble à ma parole. Cela veut dire, quand la parole de Dieu vient, c'est que ça me touche. Je suis touché par la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ces moments dans votre vie quand on entendait la parole de Dieu et ça ne nous touchait pas. Vous vous souvenez? Et un jour, quelque chose s'est passé et tout d'un coup, on a porté de l'attention, ça nous a touché. Cela a touché quelque chose dans notre âme. Et vous savez, la parole de Dieu nous a touché, vous a touché. Ce n'est plus de la complaisance, ce n'est plus de l'indifférence, ce n'est plus la passivité. Dans Ézéchiel 47, il y a la vallée des eaux secs, séchées. Et on peut être comme ça, on peut être sec, sans humidité, sans rien. Je suis passif. Je viens à l'église parce que j'ai l'habitude, mais je ne reçois rien, je suis sec. Et j'aime ce que Dieu a dit. La vallée des eaux secs, écoute la parole de Dieu. Et quand la parole de la grâce, de l'œuvre terminée est venue, donc les eaux secs ont commencé à bouger. Il y a une œuvre de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Les eaux ont commencé à se rassembler. Peut-être j'étais très loin de Dieu en tant que jeune, en tant qu'adulte. Peut-être des choses qui se sont passées dans ma vie, qui me font abandonner. Mais la parole de Dieu entre, et ce qui est sec, soit sans son humidité, les eaux s'assemblent. Je demande à Dieu, est-ce que ces eaux peuvent vivre? Dieu, tu connais ma circonstance, ma situation, ma famille, mon voisinage, mon travail, tu connais tout. Et ta parole, quand bien même, peut me toucher. Quand bien même se toucher exactement où je suis et me construire. Peut-être je suis dans le besoin, je suis faible, mais dans Ésaïe 40, il est dit celui qui attend pour l'Éternel n'abandonne pas, attend. C'est Dieu qui nous renouvelle dans nos forces, avec confiance, tranquillement, et il nous renouvelle. Est-ce que vous avez déjà vu un aigle voler? Il est très haut, il est intouchable, il est en contrôle, au contrôle. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, un bébé, un aigle? Et c'est comme nous, souvent, quand nous sommes jetés du nid, notre nature qui est de Christ, tout d'un coup vient, prend vie. Et ceux qui attendent l'Éternel, ils attendront, ils vont courir sans être fatigués, sans être épuisés. Je ne peux pas courir aujourd'hui comme j'avais l'habitude, ça me fait du mal, mes genoux. J'ai pris du poids, toutes ces choses. Mais spirituellement, c'est la même chose. Des fois, je peux dire la même chose. Je n'ai pas la même capacité. Mais Dieu nous dit, il n'y a pas de problème. Je te renouvelle. Je vais accomplir mon œuvre. Je vais prendre de toi. Je vais te construire. Je vais te ramener dans un pays très loin, dans le désert. Je vais te rappeler, je vais te donner ce dont tu as besoin. C'est une grande place. Nous sommes dans une superbe, dans un grand, une belle place. Peut-être en tant que jeune ou adulte, nous sommes dans une bonne place parce que Dieu nous construit. Et pour finir, dans Ésaïe 40, celui qui court mais qui n'est pas fatigué, mais il va marcher aussi, et ne pas s'essouffler ou s'évanouir. Cette vie peut nous donner des difficultés, nous faire évanouir, mais Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il est intime auprès de nous, et nous aimons cette intimité avec Dieu. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas créer naturellement. C'est quelque chose, ce sont des circonstances avec une personne, c'est à travers une situation, et c'est comme avec cela, avec Dieu. C'est pour cela que nous aimons venir à l'église et que nous aimons partager notre foi, parce que la réponse au problème de ce monde, c'est Dieu. C'est très simple, c'est Dieu. Vous pouvez essayer ceci ou cela, ce programme, cet autre programme, mais je vous recommande d'essayer Dieu. Hier, au rap, nous avons eu un moment dans un proverbe, nous avons étudié Proverbe 30, et nous étions tranquilles, et Dieu, je sais ce que ta parole peut faire en moi, parce que j'ai vu cette œuvre dans les autres personnes. Je sais que tu es Dieu. Cela prendra du temps, mais je sais que tu vas me construire dans Jérémie 31. Je sais que nous allons être reconstruits, restaurés, les années que nous avons perdues. Il va le faire, je vous le promets. Ce n'est pas ma promesse, mais c'est sa promesse. Dans Proverbe 30, verset 5, sa parole est pure. Et sa parole va accomplir ce qu'elle a été dans son destin. En Habakkuk, chapitre 2, verset 5. C'est une bonne parole. Veuillez vous lever, levez les mains. Comme Shelton Graves, c'est le champion de poids lourd qui a vaincu à Las Vegas. Il est ici présent avec nous dans les arts martiaux. Il a gagné une médaille. C'est le champion poids lourd. Et nous accueillons le champion poids lourd, Pastor Love. je suis dans les poids légers moi-même. Ce n'est-il pas étonnant de venir dans une église où nous avons quelqu'un qui est dans la sécurité, qui peut battre n'importe qui? C'est quelqu'un de puissant. Coach Lynch, vous êtes là. Nous avons amené l'équipe de football, de soccer, en première place, mais nous n'avons pas gagné la finale. Nous avons quelque chose de... Nous pouvons nous rappeler ce que Pasteur Eugène a donné, quand bien même nous sommes vieux et usés. Merci. C'est bien d'être ensemble. Merci pour cette parole que nous avons déjà reçue ce matin. Nous avons un champion ce matin. Et chacun d'entre nous ici présents, nous sommes des champions dans Christ. Nous sommes reconnaissants, nous sommes tous des vainqueurs. Bénis cette parole et ses pensées au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Les messages que nous recevons par texte, je ne suis pas certain que c'est les meilleures méthodes de communication. Je peux vous dire ceci, je suis avec mes frères et sœurs dans des groupes des textes et j'ai beaucoup nous sommes 7 frères et sœurs et ils sont toujours en train de communiquer et j'essaie d'arranger une visite avec une tante en Pennsylvanie. Je voulais la voir avec ma sœur, mon père. On voulait arranger le temps pour y aller. Mais en même temps, j'essayais de texter à ce sujet-là. Mais j'ai aussi reçu d'autres textes-messages avec un cousin qui allait se marier. C'est la troisième fois qu'elle se marie. Donc, il se texte sur mariage. Et moi, je parle d'aller visiter ma tante. Et vous savez, il semblerait qu'on irait ce week-end là. Vous savez, et tout d'un coup, les gens ont pensé que je parlais du quatrième mariage. C'est pas ce que voilà, donc s'il y a eu de la confusion, faites attention avec les messages, textes.
Le volume est trop bas. C'est bon maintenant? C'est toujours trop bas? Toujours bas? Oui, d'accord.
À la fin, hier soir, quand on voit les joueurs qui apprécient. Et hier soir, il est très grand. Il est quasiment de 2 mètres, 2 mètres 15. Les bras sont ouverts. Ils sont très accueillants. Nous avons tous ces moments où nous voyons des gens ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus et nous sommes reconnaissants de les voir et ils ont leurs bras ouverts et on ne peut pas attendre de les embrasser avec l'amour de Christ. C'est comme ça que Dieu opère avec nous. Il ouvre ses bras. Nous savons, dans ce ministère, comme nous avons été enseignés, dans le ministère de Dieu, dans la mission de Dieu pour atteindre le monde, Dieu n'a pas d'option plutôt que d'utiliser des êtres humains. C'est la seule option. De temps en temps, il va utiliser un animal, un âne, pour parler. Voilà, comme Balaam, comme l'âne de Balaam. Mais en priorité, il va utiliser des êtres humains. Et il utilise des gens comme nous. Il n'utilise pas des héros, pas nécessairement. Mais nous pensons souvent que ce sont des héros, mais nous regardons toute l'histoire et nous nous rendons compte que ce sont des gens normaux. Et des fois, il utilise des gens qui ne sont pas très bons. Des gens qui ne sont pas très, fiables ou méritants. Et s'il devait utiliser que des gens méritants, il n'utiliserait personne. Mais Christ n'est pas mort pour les gens qui ont du mérite. Il n'est pas venu, je ne suis pas venu pour les justes. Et nous savons que Dieu sait qu'il n'y a pas d'homme juste. Il n'y en a aucun. Pas un seul. Pas une seule personne qui peut rester dans la présence de Dieu et de proclamer sa propre justice. Donc il utilise des gens, des pécheurs. Et si nous avons besoin de nous souvenir de à quel point Dieu est tolérant, tout ce que nous devons faire, c'est lire les Écritures, les paroles, les histoires dans la parole. Dieu va vous utiliser, et il suffit simplement de voir les Écritures. Souvent, quand nous sommes jeunes dans la foi, on pense qu'il va utiliser des gens qui sont saints, des gens qui sont bibliques, des gens qui ont la parole, la connaissance. Nous pensons au roi, David, Abraham, au père, nous pensons à Isaac, les apôtres, et on pense à ces gens-là. Je ne serai jamais comme eux. Ce sont des gens sur un pédestal. Nous pensons que les gens qui sont des leaders sont impeccables. C'est pour cela qu'ils sont. On pense que des fois ils sont assis un peu plus haut sur une estrade et nous pensons qu'ils ont plus de mérite. Mais ce n'est pas la vérité, en fait, parce que ce sont des hommes qui sont utilisés, des hommes et des femmes utilisés par Dieu. Mais ils sont des hommes normaux. Et on pense aux autres pasteurs dans l'audience, les hommes et les femmes qui servent. Ce sont des gens dans la parole, des gens comme nous, qui ont trouvé leur espoir, non pas dans leur performance, mais dans les bras ouverts de Dieu. C'est tout. Dans les bras ouverts de Dieu. Dans Luc 15, vous pouvez regarder un seul verset dans cette histoire. L'homme qui avait deux fils. Alors que nous savons que le fils perdu, qui a perdu tout son argent, 900 amis, qui mangeait avec les cochon a fait une. Dans verset 17, il est revenu à lui-même et quand on arrive au bout de nous-mêmes et que nous réalisons que nous avons été mal dirigés et qu'on se rend compte qu'on est arrivé dans un chenil dans la vie, en étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Les bras ouverts. S'il y a une image dans nos cœurs de l'amour de Dieu, l'amour de ce Père, c'est dans cette histoire, dans cette parabole. Ses bras étaient tellement ouverts, et combien, même après qu'il ait embrassé son fils, lui a donné son message. Combien qu'il avait revu ce message qu'il avait revu. Pour le père, ça n'avait rien à voir. Son père l'a embrassé. Nous sommes dans une culture qui est tellement différente dans Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que la culture, c'est l'apparence et la performance. Dieu nous dit que la valeur est en nous. Et la valeur que nous avons, c'est que Dieu nous aime. Et Dieu nous dit, je n'ai aucune bonne raison de vous aimer. Nous savons, nous pouvons détester Dieu sans raison, dans Jean 15. Et Jésus a dit, ils m'ont détesté sans raison. Et nous voyons que dans la parole, dans Romains 3, 24, et Dieu a tourné et il nous a justifié sans raison. Nous le détestons. Mais je ne dis pas cela moi-même. J'aime Dieu. Mais il y a 20 ans, avant d'avoir cette nouvelle nature, où nous détestions Dieu. Peut-être vous ne reconnaissez pas cela ou ne saviez pas, mais c'était à une époque particulière. Nous détestions Dieu sans raison. Et Dieu a dit, au lieu de nous détruire, il nous a dit, je vais les justifier sans raison. C'est pas la manière dont le monde opère. Et nous pensons à ces gens qui sont bibliques, nous pensons à Abraham, le père des nations. Et vous savez ce qu'il possédait? Il avait une nation de plein de faiblesses dans son âme. Et malgré cela, Dieu l'a choisi. Il avait le mensonge. Il a échangé l'intégrité pour la sécurité. Il a mis sa femme en danger pour sauver sa propre peau. C'était quelqu'un qui n'avait pas de force. C'était un menteur. Mais c'est quelqu'un sans courage. Est-ce qu'on peut construire une nation avec quelqu'un comme cela? Et nous disons non, ce n'est pas possible. Mais Dieu dit oui, parce que je vois quelque chose en Abraham, que je vois dans tous les enfants d'Abraham, que nous voyons ici dans Romains 4. Je vois des enfants qui ont foi en moi, et je vois des gens qui sont capables de prendre cette étape de foi. Nous voyons que Joe Calici est décédé hier, mais il n'y a pas même une semaine en arrière, je parlais avec Joe et je lui ai il était au lit, dans le lit, très faible. Il ne pouvait rien dire, mais il parlait toujours avant. Mais cette fois-ci, il était dans son lit très faible. Il a dit simplement ceci. Je suis désolé. Je suis désolé. Et je sais, je suis désolé que je ne peux pas parler, que je ne peux pas avoir de communion. Je suis désolé d'être dans cette situation. Je suis désolé.
Ce sont des beaux derniers mots, comme on dit. Dieu peut utiliser Abraham et faire de lui une nation. Comment est-ce qu'il le fait? Il trouve ce qui est en nous qui ressemble à Christ et utilise ce qui est en nous. Et tout ce qui est négatif, cynique, il l'enlève. Il simplement l'enlève. Oui, Abraham, je ferai de toi une nation. Et Moïse, la même chose. Et c'est seulement quand Moïse avait 80 ans, et il semblerait qu'il ne serait rien, excepté qu'il soit un fugitif. C'était son résumé, c'était un meurtrier. Est-ce que Dieu vas donner tes commandements à cet homme? Un homme qui a déjà brisé ses commandements, tu peux pas donner quelqu'un les commandements, tes 10 commandements à un homme qui a déjà brisé ses commandements. Et Dieu dit, oui, non seulement je le ferai cela, mais je ferai de lui un leader, et je ferai de lui une nation. Un homme qui était dans la crainte, insécure. Moïse était tellement insécure, il avait plein d'excuses. Et dans Exode chapitre 3 à 4, et Dieu lui dit, j'ai besoin de toi. Et l'excuse qu'il avait pour lui, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas parler, je suis trop faible, j'ai pas la crédibilité, j'ai pas la force, j'ai pas la capacité. Je ne saurais pas quoi leur dire s'ils me demandent ton nom. Et Dieu lui dit, dis simplement que je suis. Quand Dieu a touché sur Moïse, quand nous avons le même visage, nous avons reçu le même visage quand nous avons appris que Dieu voulait de nous. Est-ce que Gideon, Jacob, non pas moi. Chaque caractère dans la Bible, nous voyons David. Nous connaissons ses péchés, toutes ses erreurs. Et David était connu aussi pour le géant du désir. Je me demande dans notre culture d'aujourd'hui combien d'entre nous ont été pris par ce même péché. Mais c'était une exception dans la vie de David. Mais la grande part de sa vie, c'était qu'il croyait en Dieu, dans sa faiblesse, dans ses troubles, dans ses difficultés, dans son brisement. Et je lui dis, je fais confiance à Dieu. Et je sais que Dieu voit plus loin de nos faillites, mais il voit nos cœurs, et que nous voyons que dans 1 Samuel 16, 7, nous voyons que Dieu regarde nos cœurs. C'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour cela que nous pouvons nous rassembler, parce qu'il regarde à nos cœurs. Il va au-delà des difficultés, des brisements, des faillites et du chenille qui est dans nos vies, mais il voit quelque chose d'autre dans nous, mais entre nous. Et je sais qu'ils me suivront et qu'ils voudraient me suivre de tout leur cœur. Je sais qu'ils sont faibles et c'est pour cela que je viens toujours d'une manière ou d'une autre. Et je viens d'une manière avec mes bras ouverts. Toujours. Nous voyons que David a été tellement décevant. Il a pris une autre femme, il l'a mis enceinte, il a essayé d'accuser son mari. Et il a simplement vu quand ça ne marchait pas, il a simplement demandé de tuer cet homme. Et on voit ce caractère dans la parole de Dieu. Et quand j'étais jeune converti, un jour, j'ai amené de la bière à la maison et tout le monde était content. Mais un jour, je suis arrivé avec une Bible et les gens dans ma famille ont pensé que j'étais devenu fou. Et on m'a dit, il faut pas lire la Bible parce qu'il y a des passages difficiles et des passages durs. Et je vois que c'était quelque chose d'intéressant de lire dans la Bible que Dieu utilise des hommes difficiles qui ont eu des difficultés, comme David, qu'il a tué Uraï. Et il a continué sa vie comme si de rien ne s'était passé. Et il a pris sa femme. Et il a peut-être même, je ne savais pas, peut-être loué Dieu, on ne sait pas. C'est une mauvaise histoire, mais on voit dans qu'il a été brisé dans son cœur. Vous savez, Dieu n'est pas intéressé par notre intelligence, notre quotient intellectuel et notre quotient émotionnel, mais il est intéressé par notre quotient de repentance. Et il veut que nous repentions, que nous levions de nouveau et que nous levons cette fois parce que nous comprenons que ses bras sont toujours ouverts. Et Jonas, l'ambassadeur de Dieu, qui a décidé de sauter d'un navire à l'autre alors que quand Dieu ne regardait pas, et on voit qu'il était vraiment brillant. Je pense, je vais aller dans un autre bateau et je pense que Dieu ne verra rien pendant que Dieu ne regarde pas. Qu'est-ce que Dieu a à faire? Ah, il va aller à Joppa plutôt que d'aller à Nineveh. Et vous savez, ça n'a pas d'intérêt. Dieu n'a pas de la liberté de prendre de beaucoup de personnes. Il prend ce qu'il a. Dieu a des difficultés. Il va même t'utiliser, toi. Nous avons la face, nous regardons le visage, et quand Dieu nous dit « Je vais t'utiliser », ça n'a pas d'importance comment le résumer, ce que nous avons. Mais nous savons que Dieu dit « Je vais t'utiliser ». Demande Moïse, Jonas, Abraham, Élisée, Salomon, Jacob, Sarah, Gomer, Ascrab. Wow. Et Rab, tu es engagé pour le travail de Dieu. C'est quoi ta profession? Je suis une prostituée. Bien sûr qu'il peut utiliser tout le monde. C'est l'enseignement que Dieu utilise des gens ordinaires. Il les transforme en tant que saints, mais des gens ordinaires qu'il transforme, des voleurs, des menteurs. Et si vous êtes dans une de ces catégories, vous pouvez être sélectionné. Vous savez, Dieu dit, je peux vaincre le pire des hommes. Mais souvent, nous abandonnons nous-mêmes, nous abandonnons sur quelqu'un d'autre. Mais nous nous rendons compte que Dieu n'abandonne jamais sur aucun d'entre nous. Parce que c'est sa nature, c'est ses bras ouverts. C'est Dieu qui voulait. Il voulait que nous comprenions que ses bras sont tellement ouverts pour chacun d'entre nous. Et il l'a fait de telle manière pour que, d'une cette manière, que ses mains ont été attachées à la croix avec les bras ouverts, afin que chacun d'entre nous comprenne. Quiconque voudrait croire, peu importe le passé, peu importe l'histoire, ce que nous manquons dans la perfection, c'est Dieu qui remplit tous nos manques à travers son amour. Ce sont les bras ouverts de Dieu. Et nous voyons le père de ce jeune homme. Et nous voyons qu'il retourne et voyons l'autre fils qui attend, qui montre avec du doigt. Et ou bien qu'il disait, où étais-tu? Est-ce que tu as appris ta leçon? Ce sont des paroles difficiles. Mais nous entendons jamais ces paroles. Nous entendons la parole de Dieu qui nous dit, j'attends, je t'attends. Rien ne peut m'empêcher de t'aimer, de me séparer de toi. Il n'y a rien qui ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pas de tempête, rien. Je vais rester fidèle à mon amour pour toi. Je ne vais jamais t'abandonner. Je y pense. Je ne veux pas changer. Je ne vais pas changer ma décision. Je ne veux pas croiser mes bras. Est-ce que si vous posez la question de savoir si Dieu peut vous utiliser pour toucher le monde, regardez simplement ceux qu'il a déjà utilisés. Regardez autour de vous. De voir, nous voyons les bras ouverts de Dieu. Dieu a les bras ouverts. Alors que nous finissons pour le baptême, nous voyons que Dieu a des bras éternels qui ne sont jamais fatigués. Dans Deutéronome 23, et on voit où il est parlé des bras éternels de Dieu. Tu ne peux pas tomber plus bas que les bras éternels de Dieu. Ce sont des bras qui vont t'attraper, ils vont te restaurer. Il va remettre les gens blessés sur leurs pieds, les scénarios les plus difficiles, il va transformer pour sa gloire. Il va prendre une âme qui est détruite en mille pièces, il va guérir, il va réparer, il va renouveler dans leur tête, à travers la parole de Dieu. Et il va donner l'amour, la grâce et poser toute sa grâce et transformer leur vie parce qu'il a les armes ouvertes, des bras éternels. Ce sont pas des bras qui ont peur pour d'embrasser des enfants, des prostituées, dans l'adultère, les adultères ou les sinners, les pécheurs. Les plus grands noms que Dieu, le plus grand titre que Christ a reçu, c'était celui qu'il était ami des pécheurs et des publicains, parce qu'il avait les bras ouverts. Ce sont des bras qui peuvent atteindre aussi loin que possible. Quand bien même nous sommes tellement fatigués, nous ne pouvons pas prendre une autre étape ou un autre pas en avant. Mais il peut nous soutenir, nous porter. Il peut les bras qui vont éventuellement venir nous recevoir afin qu'il puisse nous prendre dans sa présence. C'est exactement ce que Christ a dit. Je prépare une place pour vous et je reviendrai. Et je vous recevrai moi-même. Je prendrai vous-même, moi-même, dans mes bras. Ces mêmes bras qui vous ont sauvé, qui vous ont gardé, vont vous restaurer, vous sauver. Ce sont ces bras qui vont vous aider pour vous attraper, quand bien même les péchés les plus graves. Nous passons à Joe Calici qui est décédé. Vous savez qui est venu? C'est Jésus qui est venu le chercher hier. Vous savez ce qu'il a vu? Il a vu Christ le recevoir avec les bras ouverts. Quand Jésus a dit, quand mes enfants quittent cette terre, je n'envoie pas des anges. C'est Christ qui dit, je viens moi-même, c'est moi-même qui le reçois. Nous louons Dieu pour ses bras ouverts éternels, forts, capable, gracieux, dans la miséricorde, les bras ouverts. Prie avec moi.
Alors que nous donnons l'invitation ce matin, à qui voudrait recevoir, si vous n'avez jamais reçu cette parole ou vous n'avez jamais fait une confession de foi, Dieu est prêt à vous recevoir, à vous pardonner, à de vous donner un nouveau commencement, de vous délivrer du passé, de tout ce qui peut vous troubler, qui vous enchaîne. Venez comme vous êtes. Pas seulement il va vous démontrer son amour, mais il a besoin de vous, il va vous utiliser, il a un plan et une destinée pour votre vie. Vous avez simplement besoin de venir, de dire oui, Jésus, je crois en toi. Je crois que sur cette croix, que tes bras étaient ouverts, afin que je puisse être reçu. Si vous avez dit cette prière ce matin, levez la main. Vous pouvez juste lever la main. Quiconque, merci pour cette main ici, cette autre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous pouvez recevoir un petit paquet. Il y a deux âmes qui sont rentrées dans le royaume de Dieu ce matin. Nous te remercions, Éternel. Amen.